Voici, en effet, que va être tranché le débat ouvert depuis les siècles de la civilisation hellénique entre le primat des mathématiques, tel que l'avaient proclamé les écoles de Pythagore et de Platon, et le primat de la logique, sur lequel l'enseignement périplien établissait son prestige. Aux yeux de Montaigne, ce n'était qu'un argument de plus en faveur du scepticisme. Mais Descartes, que les mathématiques attirent, qu'elles attachent, à cause de la certitude et de l'évidence de leur raison, s'étonnera de ce que, leur fondement étant si fermé et si solide, on n'avait rien bâti dessus de plus relevé. Il leur demandera les moyens d'atteindre le but qu'il s'est prescrit, et dont on peut dire que Montaigne a nettement précisé les termes lorsqu'il a défini la sagesse. Un bâtiment solide et entier, dont chaque place tient son rang et porte sa marque. Or, le 10 novembre 1619, il apparaît à Descartes que le succès de l'entreprise réclame impérieusement deux conditions. D'abord, l'épuration absolue des bases de l'édifice. Ensuite, la libération du constructeur lui-même à l'égard d'une histoire qui est la sienne et non la sienne seulement, puisque par l'effet de l'éducation, elle porte les traces des tentatives du passé, si infructueuses et contradictoires qu'elles soient. La première de ces conditions est d'ordre technique. Chose curieuse, nous trouvons le problème posé dans le passage de l'Apologie de Raymond Sebon, où Montaigne répartit les compétences entre les diverses disciplines scientifiques. La géométrie emprunte de l'arithmétique les proportions. Seulement, pour appliquer au continu les propriétés que l'arithmétique détermine avec tant de clarté entre les unités discrètes, la géométrie des anciens s'astreignait à la considération des figures qui ne peut exercer l'entendement sans fatiguer beaucoup l'imagination. Descartes se propose d'éviter le détour et de constituer l'analyse des modernes, l'algèbre, à titre de discipline autonome, en tant que purement intellectuelle. Tel est le sens et telle est la portée de la théorie des équations, chef-d'œuvre de la mathématique cartésienne qui est exposée au troisième livre de la géométrie de 1637. Descartes y considère les deux équations, x égale 2 et x égale 3, ramenées à la forme canonique d'une simplicité saisissante. x-2 égale 0, x-3 égale 0, qu'il a l'audace de multiplier l'une par l'autre de façon à obtenir l'équation du second degré, x au carré moins 5x plus 6 égale 0, dont les racines sont de toute évidence 2 et 3. On présumera que Montaigne eût été bien surpris si on lui avait assuré que des propositions aussi élémentaires, dans un domaine aussi éloigné du sens commun, devaient conduire à un renversement total dans nos jugements concernant la valeur de la raison humaine, fondée, à titre irrécusable et définitif, le règne de l'ordre et de la mesure. Rien cependant n'est plus certain. La déduction logique est correcte dans la mesure où elle descend du genre à l'espèce et de l'espèce à l'individu, c'est-à-dire où la dialectique des universaux se donne la satisfaction stérile, sinon puérile, de retrouver dans la conclusion une partie de ce qui avait été posé par les prémices. Toute chance de nouveauté, tout espoir de création lui sont interdits. Au contraire, la pensée algébrique dont le génie de Descartes a dégagé les principes clairs et distincts va de l'absolument simple à ce qui sera de plus en plus complexe. Lorsque les équations se composent, nous assistons à la montée de l'esprit, sans cependant courir le danger de nous égarer hors des bornes prescrites par la rigueur de la démonstration. Et c'est là un point capital. Tandis que pythagoriciens et platoniciens avaient trahi leur propre idéalisme en transfigurant les nombres ou les formes pour les revêtir d'une apparence transcendante, la mathématique cartésienne dénonce et dissipe la confusion séculaire, presque fatale, car elle est inhérente à la structure même de notre langage, entre le rapport et le support. Descartes s'en explique dans la page du discours, inséparable elle-même du texte de la géométrie, où il déclare n'avoir rencontré que dans les seules mathématiques l'évidence d'une méthode capable d'accoutumer son esprit à se repaître de vérité et ne se contenter point de fausses raisons. Mais, poursuit-il, je n'ai pas dessein pour cela d'apprendre toutes ces sciences particulières qu'on nomme communément mathématiques. Et, voyant qu'encore que leurs objets soient différents, elles ne laissent pas de s'accorder tout en ce qu'elles n'y considèrent autre chose que les divers rapports aux proportions qui s'y trouvent, je pensais qu'il valait mieux que j'examinasse seulement ces proportions en général et sans les supposer. Ce qui ne veut pas dire en formant des hypothèses, mais en posant des suppos, des substrats, que dans les sujets qui serviraient à me rendre la connaissance plus aisée, même aussi sans les y astreindre aucunement, afin de les pouvoir d'autant mieux appliquer après à tous les autres auxquels elles conviendraient. Puis, ayant pris garde que pour les connaître, j'aurais quelquefois besoin de les considérer chacune en particulier, et quelquefois seulement de les retenir ou de les comprendre plusieurs ensemble, je pensais que pour les considérer mieux en particulier, je les devais supposer en des lignes, à cause que je ne trouvais rien de plus simple, ni que je puisse plus distinctement représenter à mon imagination et à mes sens, mais que pour les retenir ou les comprendre plusieurs ensemble, il fallait que je les explicasse par quelques chiffres, les plus courts qu'il serait possible. Le gué a été découvert et franchi, ou pour employer une métaphore également familière à Descartes, l'algèbre, comme il disait à Christian Huygens, est la clé de toutes les autres sciences. En effet, la correspondance entre équations et courbes qui se développe grâce à l'usage systématique des coordonnées permet de définir très exactement ce que signifie, en n'importe quelle matière, la solution scientifique d'un problème. Le moment essentiel, moment d'analyse, est dans le processus de décomposition qui s'exerce sur les données telles qu'elles de l'énoncé pour y découvrir un faisceau de relations que leur évidence intrinsèque rend indubitable et à partir duquel la puissance créatrice de la raison reconstitue du dedans, suivant l'ordre d'intelligence qui lui est propre, l'objet dont il poursuit l'explication. Le cadre de la méthode est entièrement défini et qu'il puisse être rempli de proche en proche, de degré en degré, jusqu'à couvrir l'intégralité du savoir, c'est ce que, dès 1619, fait pressentir à Descartes l'unité de l'esprit humain. Toujours identique à lui-même, si différent que soient les objets à quoi il s'applique et qu'il ne reçoit pas plus de changement de ces objets que la lumière du soleil de la variété des choses qu'elle éclaire. Il est étrange qu'un jeune homme de 23 ans ait pu concevoir une entreprise d'une telle portée avec la pleine conscience de ce qu'il veut et de ce qu'il peut. Il est beaucoup plus étrange encore qu'il se soit imposé la méditation des obstacles qu'il rencontra en lui-même, à commencer par l'impatience trop naturelle d'aller jusqu'au bout des horizons qu'il s'est brusquement ouverts. Il se fera un devoir de lutter contre les jugements inconsidérés auxquels prévention et précipitation nous entraînent également, et qui gênent la progression régulière de l'esprit. C'est ici que se manifeste l'influence de Montaigne. Elle convaincra Descartes qu'il ne s'agit pas de simples préceptes à réciter du bout des lèvres. On ne s'affranchit pas par personne interposée. Chacun doit pratiquer pour son propre compte la chasse aux préjugés en explorant le grand livre du monde. Lorsqu'il s'engage à titre gratuit dans les armées du prince de Nassau puis du duc de Bavière, le jeune officier donne un corps à l'esquisse de Montaigne. Il n'est occupation plaisante comme la militaire, occupation et noble exécution, et noble en sa cause. La compagnie de tant d'hommes vous plaît, noble, jeune, actif, la vue ordinaire de tant de spectacles tragiques, la liberté de cette conversation sans art et une façon de vie mâle et sans cérémonie, la variété de mille actions diverses. Vous vous conviez aux rôles et hasards particuliers selon que vous jugez de leur éclat et de leur importance. Soldats volontaires et voyez quand la vie même y est excusablement employée. Et c'est bien dans le style des essais que Descartes dégage la moralité de ses expériences, en voyageant et ayant reconnu que tous ceux qui ont des sentiments fort contraires aux nôtres ne sont pas pour cela barbares ni sauvages, mais que plusieurs usent autant ou plus que nous de raison. Et ayant considéré combien un même homme, avec son même esprit, étant nourri dès son enfance entre des Français ou des Allemands, devient différent de ce qu'il serait s'il avait toujours vécu entre des Chinois ou des cannibales. Et comment, jusqu'aux modes de nos habits, la même chose qui nous a plu il y a 10 ans, et qui nous plaira peut-être encore avant 10 ans, nous semble maintenant extravagante et ridicule, en sorte que c'est bien plus la coutume et l'exemple qui nous persuadent qu'aucune connaissance certaine. L'effort de Montaigne vise bien la résistance à la tyrannie de l'exemple et de la coutume. Seulement, chez lui, ce but semble condamné à demeurer en quelque sorte sans but. La règle est formulée. Il faut ménager la liberté de notre âme et ne l'hypothéquer qu'aux occasions justes. Mais l'application fera défaut. Lesquels sont en bien petit nombre si nous jugeons sainement. Tellement rare, en fait, qu'autant dire jamais. La recherche de la vérité s'épuise ainsi dans son propre dessein. Au contraire, lorsque Descartes se tourne vers les trésors de sagesse entassés par Montaigne, il est animé par une ambition de conquête positive. Il tient à s'avertir des précautions de conduite que réclame le succès de son projet. La première sera de se tenir à l'écart de tout mouvement vers une nouvelle réformation, soit de l'État, soit de l'Église. La raison privée, dirait volontiers Descartes après Montaigne, n'a qu'une juridiction privée. Encore relèverait-on une nuance, et plus qu'une nuance, de leur profession commune de conformisme et d'orthodoxie. Au début du chapitre des prières, Montaigne déclare « Je propose des fantaisies informes et irrésolues, et les soumis au jugement de ceux à qui il touche de régler non seulement mes actions et mes écrits, mais encore mes pensées, me remettant toujours à l'autorité de leur censure qui peut tout sur moi. » Dans le discours, Descartes tient à expliquer pourquoi il a renoncé à publier son traité du monde sur la nouvelle de la condamnation de Galilée par le Saint-Office. « J'ai appris que les personnes à qui je défère, et dont l'autorité ne peut guère moins sur mes actions que ma propre raison sur mes pensées, avait désapprouvé une opinion de physique publiée un peu auparavant par quelque autre, de laquelle je ne veux pas dire que je fusse, mais bien que je n'y avais rien remarqué avant leur censure que je puisse imaginer être préjudiciable, ni à la religion ni à l'État, ni, par conséquent, qui m'eût empêché de l'écrire si la raison me l'eût persuadé. La différence des expressions qui ne pouvaient échapper au lecteur de 1637 est singulièrement instructive. Par lassitude et découragement, Montaigne semble parfois tout près de livrer, en même temps que la conduite du dehors, l'assentiment du dedans. Descartes n'abandonne que la pratique. Il réserve le droit de l'intelligence afin qu'elle accomplisse dans l'intégrité de son indépendance l'œuvre à laquelle il a décidé d'employer toute sa vie. Cultiver ma raison et m'avancer autant que je pourrais en la connaissance de la vérité, suivant la méthode que je m'étais prescrite. Entre les diverses occupations des hommes et par-delà les portes les plus honorables de la terre, telle est celle que Descartes choisit. Relativement à cette option qui, elle, a une valeur catégorique, dans cette période où la découverte de la méthode n'a pas encore porté tous ses fruits et afin précisément d'en assurer le droit à exercice, le comportement provisoire du philosophe reflète l'attitude que Montaigne recommandait à titre définitif. Premièrement, se tenir dans l'espace moral à distance égale des extrêmes. Deuxièmement, pour parer aux vicissitudes du temps, éviter le retour sur le passé, sur sa fortune de repentir et de remords. Troisièmement, refuser les promesses et les engagements qui enchaînent le moi futur à l'image du moi présent. Pratiquer enfin les maximes du sage stoïcien, tant de fois répétées dans les essais. Tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde. Et généralement, m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement à notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est au regard de nous absolument impossible. Dans ce combat que le moi de Descartes livre afin de se dépouiller de tout apport étranger, de ne plus être que ce moi lui-même, 9 années s'écoulèrent. En un sens, elle l'amène au point où en était Montaigne lorsque, se réclamant de la géométrie, il faisait justice des superstitions qui empoisonnaient l'esprit de ses contemporains. Pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient pour n'être plus sujet à être trompé, ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent. Mais Descartes entreprend ce dont Montaigne ne se souciait pas, creuser plus avant pour trouver du roc ou de l'argile, là où il sera possible de bâtir, et Descartes insiste, de bâtir dans un fond qui est tout à moi. Expression caractéristique, mais qui risquerait d'être interprétée à contresens si l'on ne se souvenait que Descartes a commencé par expérimenter la puissance constructive du moi à travers ces longues chaînes de raisonnement, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations. Étendez donc le pyrrhonisme aussi loin qu'il vous plaira. Affolez le sens commun. Persuadez Polyandre qui le représente d'employer toute son attention à douter s'il n'a point rêvé toute sa vie. Je serai non seulement incertain si vous êtes au monde, s'il y a une terre, s'il y a un soleil, mais encore si j'ai des yeux, si j'ai des oreilles, si j'ai un corps, et même si je vous parle, si vous me parlez, et bref, de toutes choses. Vous ne touchez rien, vous ne pouvez altérer le mouvement de la pensée qui va d'équation en équation, mouvement continu et ininterrompu, susceptible par suite de se concentrer dans une vue immédiate qui embrase d'un coup l'ensemble de la chaîne, échappant dès lors au péril d'erreurs que la dispersion dans le temps entraîne avec soi. La déduction s'est transformée en intuition, mais qui demeure immanente à cette déduction même au lieu de s'en isoler comme l'intuition aristotélicienne qui prétendait lui fournir ses principes. En opposition expresse au sens traditionnel de l'intuition, faculté statique qui porte sur l'abstraction de l'être en tant qu'être, sur le fantôme verbal de la substance, Descartes précise que la fonction intuitive a pour objet une connexion, un jugement. Chacun peut voir par intuition qu'il existe, qu'il pense, que le triangle est défini par 3 lignes seulement, la sphère par une seule surface.